pour Dimanche Bonheur avec Chantal. Salut.
Télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. Quand on sort le texte du contexte, quand on sort le mot du discours, on peut tout faire dire.
La voix off.
Et polémique.
C'est là, maintenant.
Il s'agit d'un trucage.
Françaises, Français, mes chers confinés, tant de Français, tous, et chacun d'entre vous, tous, en ville comme à l'hôpital. Nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants. Alors, le gouvernement, vous en avez sûrement entendu parler. Soyons honnêtes, depuis le premier jour, gouvernement vous ment. À l'évidence, pas assez. Et il porte encore aujourd'hui beaucoup de mystères. D'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, 5 masques de plus pour nos soignants en France. Et nous aurons produit 10 000 aspirateurs supplémentaires sur notre sol. Nos aspirateurs si précieux durant ces semaines de confinement. Et nous allons continuer à multiplier les ratés. Les procédures inutiles seront prolongées et renforcées. C'est pour cela que le confinement doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin du virus. La peur sera progressive. La France est reconnue en la matière et a d'excellentes ressources. C'est pourquoi l'État, à partir du 11 mai, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque de Mickey. Son usage pourra devenir systématique. Et je porterai un masque de Mickey, moi le premier. Alors, j'aimerais tellement pouvoir tout vous dire, mais en toute franchise, le gouvernement ment, et oui, et heureusement. C'est pourquoi ce soir, je partage avec vous ce savon pour vous laver les mains. Vive la République. Vive la France.
La voix off.
Polémique.
Quelques heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un trucage.
Salut les amis et quel plaisir de vous retrouver pour cette émission Covid avec les copains profs d'histoire géo. Quel plaisir de vous retrouver en vie les amis autour de ce micro. Salut Cédric.
Salut, toujours vivant.
Formidable, bonjour Daniel.
Bonjour à tous.
Salut Philippe.
Bonjour.
Salut André.
Ah bonjour, enfin on peut se parler sans un préservatif sur la gueule.
Nous voici réunis, puisque voici venu un temps pour l'analyse, cette fameuse crise sanitaire du Covid-19 qui a fait que nous n'avons pas pu tenir cette émission pendant plusieurs mois. On a raté les numéros du Monde diplomatique d'avril, mai, juin et juillet. Va peut-être passer à la trappe, comme tous les ans d'ailleurs. Comme chacun sait, les guerriers et les problèmes vont à la plage eux aussi en juillet, en août, et il n'y a plus de problèmes sur la planète pendant 2 mois. Trêve de plaisanterie, quel plaisir de vous retrouver autour de notre mensuel préféré, le Monde diplomatique. Mais avant qu'on se plonge dans tous ces numéros qu'on a ratés, tour de table sur ce monde d'après qui ressemble quand même singulièrement à celui d'avant, mais en pire. Cédric.
Le sentiment dominant de se sentir privilégié pour posséder une maison avec un petit jardin permettant de s'aérer, et la prise de conscience peut-être plus vaste des écarts dans les conditions de richesse et les conditions d'habitat des gens. Et effectivement, un certain nombre de nos concitoyens se trouvaient dans des situations absolument désastreuses en termes de logement, et que c'était encore plus criant du fait qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi.
Pendant toute cette période de confinement, il y avait pour moi 2 types d'interlocuteurs. Il y avait ceux qui avaient possibilité d'un extérieur, comme André qui a un jardin par exemple, ou toi qui a un plus petit, et puis Daniel qui lui est un appartement avec même pas un balcon. Et c'est vrai que avant de passer un coup de fil à quelqu'un, j'ai beaucoup téléphoné pendant cette période. Bah, c'est vrai que je me disais à qui est-ce que je parle ? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a possibilité d'accéder à un extérieur ou pas ? Et là, évidemment, celui qui est confiné sans même un balcon, on lui dit pas bah, « moi ça va, je me gratte sous les bras dans mes tomates parce que j'ai un jardin ». On évite pas de narguer les gens, mais ça aurait été maladroit. Voilà, je vais vous en faire l'aveu. Puisque j'étais confiné parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, je l'ai bien vécu. Mais je vais même aller plus loin. Il y a une part de moi, pendant ce confinement, qui a joui de la situation. Évidemment, j'ai pas osé le dire parce que c'est indicible, parce que 30 000 morts, parce que des femmes et des enfants tabassés, parce que des gens qui se retrouvent face à des conjoints ou des conjointes avec lesquels ils n'ont plus rien à foutre et que c'est cruel de s'en rendre compte, voire même des gens qui se retrouvent confrontés à leur propre solitude, les suicides, le chômage, donc tous les drames engendrés par cette situation, j'en ai bien la conscience et c'est pour ça que c'est compliqué de dire que j'ai joui de la situation. Mais moi qui ai aussi été élevé avec notamment la bande dessinée L'An 01 de GB, c'est-à-dire on arrête tout, on fait un pas de côté, on réfléchit, éventuellement on se parle et peut-être même qu'on recommence autre chose, un autre monde, sans avion, sans charter, sans glyphosate, sans bitume, sans aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sans... Mais arrêtez, putain. Voilà, j'ose dire qu'il y a une part de moi qui a aussi joui, d'abord de ce temps de réflexion qui nous était donné, et puis, putain, un monde sans voiture, quoi, merde, un monde sans charter, un monde sans béton, un monde sans glyphosate, ben moi c'est ce que j'attendais depuis toujours, et paradoxalement, j'ai eu une espèce de spleen, pas de confinement, mais de déconfinement, on me dit, oh bah ça y est, là, la connerie c'est reparti, quoi, les bagnoles, les charters, les glyphosates, les bétons, c'est reparti.
Mais en usine, vous avez été bien content d'y aller pour vous payer les télévisions, les frigos, les machines à laver.
Tous ces trucs-là, le frigo, la télé, la machine à laver, on les a. Hein. Pour pouvoir payer ces saloperies, ben, ma femme, elle est forcée d'aller bosser caissière au Viniprix. Moi, je suis forcé de bosser tous les jours, 8 heures par jour comme un con, pour avoir ça. Et le fric que j'ai sert à réinvestir, à réacheter des trucs comme ça. Alors non, on peut pas continuer décemment à vivre comme ça. Il y en a ras-le-bol, il faut qu'on arrête, qu'on vive moins con.
Et alors
ben, on va essayer de refaire la culture comme on l'a fait
mais
avant de dire tout ça.
Mais ça ne sera jamais votre truc, ça ne sera jamais.
Non, mais c'est une triste réalité, c'est-à-dire que tous les espoirs que l'on pouvait résumer sous le terme « le monde d'après », bon, il y a peu de chances que ça se réalise concrètement. Même si au moins on a des quelques pistes de réflexion, le monde capitaliste, comme on va le voir dans un certain nombre d'articles, revient au grand galop et effectivement veut voir dans ce qui s'est passé, au contraire, la réalisation est catastrophique de ce que serait un monde de décroissance ou un monde alternatif en disant regardez, un monde de décroissance ou un monde dans lequel effectivement on arrête de consommer est un monde forcément catastrophique dans lequel les gens vont se retrouver dans des situations économiques, affectives et de logement absolument catastrophiques. Sans voir que c'est en fait le produit de notre société capitaliste, ce confinement et cette catastrophe.
Ce Covid est l'un des symptômes du cancer capitaliste qui nous ronge, Philippe.
L'expérience à laquelle le gouvernement a contraint les Français, c'est un petit peu comme s'il obligeait les Français à vivre une vie monacale, une vie cloîtrée, une vie réglée, une vie soumise à un certain nombre d'obligations, parce que il était dit, vous ne pourrez pas sortir avant telle heure et telle heure. Le masque lui-même peut évoquer donc l'habit monacal, en sens que c'est une sorte d'uniforme, et ça a été imposé à une société pour qui précisément ce genre de vie est complètement à l'opposé, parce que c'est une vie sans règles, une vie girovague, et on met à une population de 67 millions d'habitants sur un territoire d'un demi-million de kilomètres carrés la même vie qu'aux moines de la Chartreuse, aux moines de Ceffonds, aux Carmes, aux Cisterciens, aux Chartreux.
Je suis assez étonné par le comportement des Français. Bon, on se connaît, peuple latin, qui n'aime pas l'autorité, toujours prêt à gruger. Globalement, moi, il m'a semblé que les Français se comportaient en fait plutôt de manière raisonnable. Et il y a une démonstration très forte qui a été faite notamment vis-à-vis de ce 1er mai. Hein, on s'en souviendra quand même du 1er mai 2020, puisqu'il n'a pas eu lieu, puisqu'on était encore confinés. Les gens ont été raisonnables. Et il y a eu là aussi une démonstration que qui est-ce qui se comporte comme un adulte raisonnable ? Bah, globalement, les Français, qui sont quand même, dans leur grande majorité, je pense, pliés à ces règles. Et qui c'est qui a fait de la merde? Qui c'est qui s'est comporté comme un irresponsable? Ben, c'est bel et bien le gouvernement Macron qui a géré cette crise, enfin, bon, ou qui ne l'a pas géré d'ailleurs, à force de mensonges et de propagande. André?
Oui, on peut voir les choses comme ça, c'est vrai. On est étonné qu'on ait pu imposer un régime si sévère de confinement à tout un peuple comme ça, et sans véritablement qu'il regimbe, etc., qu'il proteste, tout comme ça. On peut aussi interpréter un petit peu différemment les choses. Alors ça peut être une sorte de leçon de civisme et de responsabilité sociale, etc., mais c'est aussi l'instinct de conservation. On a quand même fait peur aux gens, et à juste titre. Les gens se sont préservés eux-mêmes, ils se sont conformés socialement, collectivement, à des consignes sévères, mais dans le but quand même de se conserver individuellement, de se conserver soi-même, soi et en famille, bien sûr. Hein. Je ne veux pas dire que les gens étaient complètement égocentriques, mais enfin, il s'agissait de se sauver d'une pandémie dangereuse, d'une maladie contagieuse et méchante, hein, puisqu'elle tuait quand même beaucoup de gens. Et donc les gens se sont préservés eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que dans une autre circonstance, quand on dit aux gens, soyez propres, et respectez la nature, essayez d'avoir une attitude responsable vis-à-vis de la biosphère, etc., il n'est pas sûr qu'on ait la même attitude responsable, collective.
C'est dit, quand je vois maintenant le nombre de masques qu'on voit traîner par terre dans la rue, je me dis que j'ai peut-être un peu aussi idéalisé le truc. Je vais continuer à vous parler de ma petite expérience personnelle, très intéressante. Quand est arrivé le premier jour de confinement, en fait, ça succédait aussi à un mouvement social très dur, hein, de novembre, décembre, janvier, février, à raison de 1, 2, 3 manifs par semaine. Quand est arrivé le premier jour de confinement, je vous avoue qu'en fait, j'ai passé 15 jours à baver dans une chaise longue parce que j'étais épuisé par ce mouvement social qui a été dur quand même et intense, hein, contre la casse des retraites. Donc déjà, les 15 premiers jours de confinement, bah, moi je les ai vécus comme un repos nécessaire parce que j'en pouvais plus d'aller dans les manifs, de faire les émissions qui vont avec et machin. Et j'étais particulièrement furieux les premiers temps quand j'entendais les casseroles et les applaudissements de 20h. Ça m'a rendu fou de rage en disant « bande de trous du cul, c'est bien le moment d'avoir peur », alors que ça fait des années que les personnels soignants de l'hôpital défilent dans la rue pour sauver votre hôpital public, c'est-à-dire pour sauver votre cul. On vous a jamais vu dans les manifs, mais maintenant que vous avez la trouille, vous jouez de la casserole. J'attends de voir si vous serez avec les infirmières la prochaine fois qu'elles seront en train de manifester dans la rue. Bon, ça a été assez mitigé. À la manif du 16 juin, on a effectivement vu des nouveaux visages, et peut-être dans l'eau, y avait-il des joueurs de casserole de 20h. Mais enfin, toute la population française n'était pas là dans la rue pour défendre l'hôpital public qui était pourtant d'un seul coup devenu si précieux, parce que quand même là-haut, Macron, le MEDEF et compagnie se sont rendu compte que quand les salariés sont morts, ils travaillent beaucoup moins bien, et que l'hôpital public, finalement, pour continuer à faire tourner le système capitaliste, c'est quand même finalement pas mal. Et puis le troisième truc qui s'est imposé à moi, je suis suffisamment vieux pour être médiatiquement vacciné au Tchernobyl. C'est-à-dire qu'en avril 86, j'avais 17 ans, et la sacro-sainte télévision nous a assuré que le sympathique nuage nucléaire ukrainien qui avait explosé dans cette centrale dont on connaissait pas le nom jusque-là, Tchernobyl... Le nuage, Cédric, souviens-toi, hein,
c'était arrêté à la frontière.
C'était un nuage francophile qui s'était arrêté à nos frontières et donc personne n'a été irradié. Et donc évidemment, comme c'était la télévision qui l'avait dit en 86, bah, j'y ai cru. Je veux dire, c'est quand même la télé qui le dit, quoi. Bon, on connaît la suite. Ce qui fait que dès que le confinement a démarré, je me suis dit, bon, déjà que j'avais arrêté d'écouter France Intox, que je paye pourtant, comme vous, avec mes impôts, pour avoir une information véritable et objective, je me suis dit, bon, et ben là, je vais couper France Intox et voilà. Il y a eu aussi ce truc de ras-le-bol en disant, bon, dans cette émission, avec les copains profs d'histoire géo, ça fait depuis 1993 qu'on fait le boulot, quoi. Qu'on décrit ce que c'est que ce système capitaliste mortifère, qu'on en décrit les tenants, les aboutissants, les conséquences, les perspectives, qu'on essaye de faire ce qu'on peut avec nos petits moyens, nos bouts de ficelle, nos petites radios, nos petits micros. Mais il y a eu de ma part un effet de ras-le-bol à partir du confinement en disant « Eh ben de la merde, ça fait 25 ans que je fais le boulot, ça fait 25 ans qu'on est accroché à des signaux d'alarme et à des sémaphores, ça suffit. Maintenant vous êtes dans la merde. » Alors bon, pas vous les copains et copines auditrices qui nous suivaient et qui rejoignaient nos analyses ou qui les embrassaient même. Mais bon voilà, tous ces gens au cerveau mort là, qui d'un seul coup se mettent à avoir la trouille, je dis bon, nous ça fait 25 ans qu'on fait le job pour essayer d'avertir les gens. Et ben maintenant qu'ils sont dans la merde, qui comprennent? Je sais pas comment vous avez réagi, mais finalement, pour quelqu'un comme moi qui prétend s'intéresser à la propagande et à ce qu'on met dans le crâne des gens, les médias, le discours dominant, bah j'ai tout coupé. Je n'ai rien voulu lire, je n'ai rien regardé, je n'ai rien entendu, en me disant « ça suffit ». y en a ras-le-bol. Je me suis contenté de quelques articles du Monde Diplomatique parce que je suis abonné et je continue à le recevoir, et Le Canard Enchaîné, quand j'ai pu le choper, même en version 4 pages, malgré tout, à 1,20€ quand même. Un peu de diplo, un peu de Canard Enchaîné, ça m'a amplement suffi, parce que de toute façon, on sait que dans ces circonstances, ils racontent que de la propagande, hein, je reviens à Tchernobyl, et que de toute façon, je me dis, ça se trouve, ils en savent pas plus que nous, donc c'est pas la peine de se fader ça. Donc de temps en temps, tous les 3 jours, j'allumais le 12-30 de France Culture, parce que la propagande dans les moquettes feutrées de France Culture paraît un peu moins violente que sur France Intox, servie par Demeret et Salami. Donc de temps en temps j'allumais France Culture le 12-30, en fait je basculais sur France Info. Et alors bon, le premier jour j'ai entendu des gens qui se lamentaient parce que les compétitions de football étaient annulées. Ah, je me suis dit, bon bah ça va, c'est pas la fin du monde, les hordes de zombies de la cité d'à côté vont pas venir tambouriner à ma porte pour me piquer mes boîtes de sardines et violer ma femme, donc c'est pas encore le chaos, tout va bien. Et puis 3 jours après je rallumais, et puis là j'entendais des notaires qui glosaient sur le fait que c'était quand même compliqué de déménager en plein confinement. Je me dis, bon bah apparemment c'est toujours pas la fin du monde, et comme j'habite pas loin de l'autoroute, je continuais entendre les norias de camions passer. Spéciale dédicace aux chauffeurs routiers qui ont alimenté les rayons des magasins avec des boîtes de petits pois et du papier hygiénique. Avec tous ces gens qui se chient dessus, il y en a eu une forte consommation quand même. Et finalement, quelques temps plus tard, je suis tombé sur une espèce de téléphone sonne de France Intox, je crois. Alors le thème c'était comment avez-vous vécu le confinement ? Et ben, il apparaissait que ceux qui s'étaient coupés de tout stress médiatique l'avaient beaucoup mieux vécu que ceux qui étaient restés scotchés sur France Intox ou BFM, et c'est France Intox eux-mêmes qui le disaient. Ben voilà, hein, les gens qui se sont pas exposés à la propagande ont beaucoup mieux vécu ou moins mal que ceux qui étaient scotchés sur leur Facebook et leur télévision. André.
Oui, moi, de toute façon, j'avais déjà une vieille habitude de m'extraire de la confusion médiatique ambiante, etc. Vous avez sans doute cru percevoir que je n'aime pas tellement l'époque et les contemporains. Donc, si tu veux, pendant la période de confinement, j'ai continué ce régime-là, c'est-à-dire j'ai évité de me frotter trop à la laideur de la réalité ambiante. Alors maintenant, et quoi après ? Est-ce que chaque année, on va avoir une pandémie comme ça, un microbe, un virus nouveau qui va nous arriver d'un élevage de porcs ou de canards d'Extrême-Orient, et est-ce qu'on va devoir à nouveau se mettre un masque, etc. Parce que ça, j'ai assez mal vécu quand même. Parce que vous avez quand même omis de dire, mes chers amis, qu'il y avait 135€ d'amende pour les gens qui contrevenaient à une simple interdiction de se balader dans la rue ou sur la plage, des trucs comme ça. 135€, ça a quand même été une période, la police a pris une dimension invraisemblable de contrôle social sur les gens. Alors je veux bien admettre qu'il y avait une nécessité de ceci, de cela, etc., qu'il y a la maladie, des trucs comme ça, mais quand même, interdire aux gens de sortir, un couvre-feu général, puis pas seulement la nuit, hein, le jour, etc., un couvre-feu général, l'interdiction et la menace de l'amende, rien que l'existence de ça, moi, m'a paru insupportable. Alors, je ne suis pas un complotiste, donc je ne pense pas que le coronavirus a été inventé par Macron pour nous faire taire, mais quand même, ça a été une sacrée belle opportunité pour stopper tout mouvement social et de contestation politique, et ensuite faire croire aux gens qu'il y a des nécessités pour remettre sur la table des projets qui ont été unanimement rejetés par les Français. Donc si tu veux, ça m'a rendu un peu pessimiste quand même.
J'en reviens à ce 1er mai 2020, enfin, qui est tout à fait inédit dans toute l'histoire des 1er mai. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'en a pas eu, hein, et c'est quand même bien pratique. Je me suis quand même laissé aller en cachette à écouter un journal de France Intox un jour, et j'ai entendu un reportage terrifiant. Il s'agissait d'un entrepreneur belge qui fabrique des bracelets électroniques qu'un chef d'entreprise français comptait lui acheter pour en équiper ses propres salariés. Alors bien sûr, c'est pour le bien des gens, hein. Ces bracelets dont on équipe les salariés quand ils rentrent dans la boîte, alors d'abord sonnent quand tu te rapproches un peu trop d'un collègue. Ensuite, il est équipé d'une mémoire, il permet de faire un tracé et de savoir avec qui le porteur du bracelet a été en contact comme autre porteur de bracelet, à quelle heure. Pour le bien des gens, hein. C'est-à-dire que si un mec se met à éternuer, bah, grâce à son bracelet électronique, on peut savoir avec qui éventuellement...
Il a bouché.
Voilà, hein, parce que c'est pour le bien des gens. Attention, il n'y voit pas d'intention complotiste, fasciste et paranoïde, André. Hein. On était d'autant plus rassurés dans ce reportage guilleret de France Inter, parce que le progrès, c'est quand même vachement chouette. Et surtout, nous rassurer le fait fabricant de bracelets électroniques, il disait « Rassurez-vous, ces bracelets que je fournis à ce patron français ne sont pas équipés de balises de géolocalisation, donc tout va bien. » Puis en plus, il ne dorme pas avec. Hein,
c'est un usage privé. Il n'y a que le patron qui a le droit de savoir où sont exactement ses employés. La NSA n'est peut-être pas dans l'affaire. Quoi. Donc c'est rassurant, effectivement.
Et on peut avoir toute confiance puisque c'est le patron qui garde les données. Les données ne seront ni transmises à la NSA, ni à la police, ni à qui que ce soit. Je me faisais un délire complotisto-délirant en me disant « Ils n'ont pas été foutus d'équiper les gens avec un bout de tissu avec deux élastiques, mais vous allez voir qu'au prochain confinement ou au prochain on ne sait trop quoi, ils seront capables de nous équiper de bracelets, voire même ils feront mieux, ils nous les feront payer, hein, puisque de toute façon ces bracelets électroniques on les a déjà avec ceux qui ont des téléphones portables. Il y a des romans de science-fiction qu'on a lus quand on était gamin, je pense au Meilleur des Mondes d'Huxley ou 1984, voilà, qui était de la science-fiction au moment où on les a lus. Voilà, cette science-fiction qui devient réalité, tout ça n'augure rien de bon, et je trouvais que oui, ce confinement donnait lieu à des expériences qui pourrait tout à fait intéresser un régime fasciste ou nazi. Quand on voit déjà les ravages que la police collabo aux ordres des nazis a pu commettre simplement avec des fiches cartonnées, des plumes sergent-major et de l'encre pour dézinguer des réseaux de résistance, tu te dis aujourd'hui, mais putain, comment est-ce qu'on va faire de la résistance? Ça va être compliqué de se cacher au fond des bois et de faire des fausses cartes d'identité tamponnées avec des pommes de terre sculptées, quoi, hein, Cédric.
Donc à Nice, il y avait des drones qui circulaient dans la rue et qui envoyaient des messages d'alerte vocaux aux gens, leur demandant de regagner leur logement, etc., etc. C'est des trucs de science-fiction, quoi. On n'avait jamais vu ça, ouais. Beaucoup de mobilité, de recueil de données, parce que c'est pas seulement un message avec des haut-parleurs dans la rue, ça se fait depuis longtemps. Mais là, qui peut suivre les gens, les filmer, les identifier, voir effectivement qu'ils ne respectaient pas les consignes, dans le sens où ils n'étaient pas à un kilomètre de chez eux, ça faisait plus d'une heure qu'ils étaient dans la rue, et envoyer des messages d'alerte comme ça dans la rue. C'est vrai que c'est assez terrorisant.
Il est même arrivé, paraît-il, qu'un drone muni de haut-parleurs interpelle deux personnes assises l'une à côté de l'autre en leur demandant immédiatement de respecter les distances entre eux, sauf que ces personnes étaient le mari et la femme et qui se trouvaient dans leur jardin. Et il est arrivé que aussi, alors cette période a donné lieu à d'innombrables anecdotes, que des gens, donc, devant un drone, baissent leurs pantalons et leur montrent leur postérieur ou face des doigts d'honneur, ce qui paraît-il...
C'est la reconnaissance faciale.
C'est un délit. Quelqu'un qui avait fait un doigt d'honneur à un radar routier a été puni. Alors, il est vrai qu'il avait peut-être roulé à 130 alors que c'était que 60, mais... En plus, le juge a bien interprété ce doigt d'honneur comme un doigt d'honneur qui était destiné aux fonctionnaires de police qui visionnaient les films.
Alors, comme on n'a pas pu manifester, il y a quand même certains, j'en fais partie, qui ont fait des manifs de fenêtres. On a mis des pancartes et des bannières aux fenêtres. Moi, j'ai bien joué parce que je m'en suis fait une grande avec marqué « Sauvons l'hôpital, pas le capital ». Bon, voilà. Et j'ai fait une autre grande bannière, et c'est là que j'ai bien joué, où j'ai marqué « Halte au patronat virus ». Ça me fait rire.
Ah, oh. Oui, excuse-moi. Oui, ça me fait rire.
Bah, j'ai bien joué sur ce coup-là parce qu'il y a des gens qui se sont mis des bannières halte au macronavirus. Et eux, ils se sont pris des amendes. Atteinte au président de la République, etc. Voilà, oui, rions-en, mais en fait, c'est quand même pas très drôle. Moi, je trouve que ça pue le cyberfascisme, tout ça. Hein,
tout
c'est...
à fait. Oui. Non, en fait, je suis extrêmement pessimiste. Je pense qu'ils ont été secoués par les mouvements sociaux. Ils sont toujours, même aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, les milieux dirigeants ont été très secoués et se sont sentis menacés par les mouvements sociaux. Et ce sont les mieux à même de savoir ce qu'ils font subir aux gens pour craindre des mouvements sociaux de grande ampleur. Et les gilets jaunes, ça a quand même secoué très fort là, le cocotier. Et je pense qu'ils songent déjà et mettent en place progressivement des systèmes de contrôle social redoutables qui nous conduisent à un système policier totalitaire. Moi, je m'excuse d'équiper des milliers de caméras, des milliers, des dizaines de milliers de caméras à tous les angles de rues, d'avenues, de parcs, etc. Plus les drones de surveillance, plus le pouvoir qu'on donne à la police de contrôle social. Il y a des articles d'ailleurs dans le Monde diplomatique là-dessus qui sont extrêmement éclairants. On leur donne des moyens de contrôle social, de répression. C'est inadmissible. Effectivement, les libertés les plus élémentaires sont en danger, et les libertés politiques aussi.
fonctionnement insensé des systèmes de contrôle. Mais il va de pair avec la production et la gestion d'un autre phénomène, à mon avis, c'est la production et la gestion de la peur. Le contrôle est d'autant plus facile qu'on l'associe à la peur. Et j'ai quand même été frappé de comment les pouvoirs publics, quels qu'ils soient en France, ont instillé la peur. C'est quand même hallucinant que pendant 2 mois, tous les jours, sur toutes les radios, les télévisions, les chaînes d'information continue, on vous fait la litanie des nombres de morts. Tous les jours, cette liturgie. Puis il y avait un côté liturgique, religieux. Et cette liturgie de la parole de la mort me paraissait alors effrayant. Et forcément que ça distille la peur. Alors le premier jour, le deuxième jour, c'est appelé, le quatrième, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 8 semaines. Moi j'ai coupé, j'ai un peu fait comme toi, j'ai coupé les trucs, parce que si tous les jours tu comptes les nombres de morts, au bout de quelques jours t'en peux plus, quoi. C'est humain, quoi. Voilà. Et le contrôle et la peur, voilà, les deux mamelles.
Un autre truc aussi, hein, puisqu'on est dans toutes ces innovations formidables que le gouvernement a pu tester pendant cette période très propice à ça, mais il y a eu quand même cette question du téléenseignement dès le confinement. Je me suis dit ça, très bon terrain d'expérimentation, parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Économiser de la masse salariale sur ces abrutis de profs, toujours en grève, toujours en vacances, toujours puis qu'il faut payer surtout, hein, parce que la France est devenue un pays du tiers-monde, même si on est toujours 6e puissance économique du monde. Vous savez, hein, qu'il y a la dette, qu'on ne peut plus payer nos infirmières et nos profs. Je me suis dit, dès le confinement, dès qu'il y a eu le téléenseignement, je me dis ça, très bon terrain d'expérimentation à l'avenir, si jamais il y a un avenir, une seule équipe pédagogique pour tout un pays. Téléenseignement, alors on a pu se rendre compte, hein, que tous les foyers ne sont pas dotés d'ordinateurs, de tablettes, de connexions, de trucs. Le contact humain, les parents qui ont du fric pourront l'assurer à leurs gosses en les envoyant dans des écoles privées et payantes. Mais moi je te dis que l'école du futur telle que Blanquer, les cyber-Blanquer l'imagine, désingra les profs, plus qu'une seule équipe pédagogique pour tout un pays, et vive l'ordinateur. Et ben ça a pas loupé, Le Canard Enchaîné a fait un article là-dessus, c'est déjà en route dans je ne sais plus quelle université, mais après tout, oui, c'est vrai, hein, tous ces profs ici de fac, bah, ça coûte cher, et là où on pourra en mettre un, là où il y en avait 100 avant, et ben, allons-y, ça fera 99 salaires de moins à payer. Cédric.
Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui est en réflexion depuis pas mal de temps. Là, ça a été un terrain de test, mais qui a montré ses énormes limites. Enfin, là, on a bien vu que ça fonctionnait pas, quoi. Ça
fond dans un foot, on va quand même pas éduquer les gens, des fois, qui se mettra à réfléchir.
Ça fonctionne pas, notamment là où le niveau socio-professionnel est plus bas, où il y a des difficultés de rapport à l'école et à la chose scolaire, il y a eu des décrochages énormes. Moi, je vois en lycée de centre-ville, plutôt avec des CSP plus sur plus grand nombre, ça fonctionne. Mais j'ai des copains et collègues en zone prioritaire, etc. C'est catastrophique. Ils ont perdu 60, 70, 80% de leurs élèves qui sont partis dans la nature. Sans parler des problèmes de désocialisation. Objectivement, c'est pas tenable. Et là, on a prouvé par A plus B, mais comme tu dis, hein, souvent la réalité, les gens ne veulent pas la voir. La réalité de l'expérience montre que ça ne fonctionne pas. Mais ça veut pas dire que ça se fera pas. C'est pas que ça fonctionne pas qu'on va pas le faire.
Les amis, il y a aussi un autre truc, enfin bon, que j'ai vu émerger, je me suis pas plus penché que ça sur la question, mais c'est toute cette polémique autour du professeur Raoult et de cette fameuse chloroquine. Tiens, il y a un gars qui est quand même meilleur épidémiologiste du monde, consulté par les Chinois et par tout le monde, bah, nobélisable quand même, hein, qui nous dit, bon, bah voilà, la chloroquine, c'est intéressant. Bon, et je me dis, effectivement, alors là, vous voyez mon vilain esprit complotiste, mais je me dis, les labos pharmaceutiques qui salivent tous sur les juteux profits de soi-disant médicaments qui pourraient nous vendre très cher et machin, si effectivement on peut soigner le machin avec un bidule qui coûte 15 euros au kilo, on peut comprendre que les labos, voilà, ou qui est effectivement un lobby parisien, hein, parce que Raoult a le tort en plus d'être plutôt marseillais que parisien. Là, on revoit un machin qui remonte à la Révolution française, hein, voilà, à Paris, la province, machin. évidemment difficile de pas y voir non plus là pour le coup une espèce de complot des labos, voilà, avec leur larbin politique et des médias, parce que cette bronca, ce haro contre le professeur Raoult, je les ai trouvés extrêmement suspects. Ça a même suinté jusque dans les émissions soi-disant comiques de France Inter, là, les rigolos de 17h, là. Même eux ne rataient pas une occasion de tirer à boulet rouge sur le professeur Raoult. J'ai trouvé ça extrêmement suspect. Moi, je sais pas, je suis pas épidémiologiste, mais enfin, le Raoult en question me semble plus calé que d'autres. D'autant plus que dans le Canard enchaîné du 15 avril, de mémoire, j'ai vu qu'il y a des centres hospitaliers où les cas légers de coronavirus étaient soignés au Schweppes. 4 canettes de 33 centilitres de Schweppes, puisque c'est une boisson faite avec de l'éco à base de quinine. Bon, tu te dis, ah, quid ? Un avis, non, sur cette polémique autour du professeur Raoult, le vilain provincial, André ?
A priori, moi, je professe un tel mépris à l'égard des médias, qu'à partir du moment où il se rassemble dans une opinion et qu'il charge quelqu'un, j'ai plutôt tendance à soutenir la victime de ce lynchage médiatique. Bon, c'est un tort, mais enfin, c'est épidermique chez moi. Les médias disent du mal de Raoult, il peut pas être complètement mauvais. Donc c'est pas très rationnel, mais voilà, je te dis mon sentiment.
Daniel. Ce que vous avez dit, je l'ai pensé. Les mois qui viennent, les bilans qui seront faits permettront peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Je remarquais qu'un des traitements qui avait été soutenu, dans, je pense en particulier aux États-Unis, le nom du médicament m'échappe, etc. Il a un grand avantage, c'est que pour traiter un malade du Covid, c'est en gros 2000 euros. C'est mieux, hein. Ceci dit, il ne faut pas aussi en tirer trop de conclusions simplistes, mais il est évident qu'on ne peut pas ne pas y penser.
Beaucoup de créativité aussi pendant cette période de confinement. On a vu des choses assez hilarantes hein, passer sur Internet. Je pense notamment à ce linguiste qui expliquait que pour pas envoyer de postillons dans la gueule des gens, fallait envoyer toutes les plosives et les explosives du langage, ce qui hermettait Eneha on haminé. Et André, la France entière aussi a rigolé en chanson.
Ah oui, j'invite nos auditeurs à écouter les Goguettes. D'abord, ce sont de bons chanteurs, bons musiciens. Et ils ont fait des pastiches et à partir de chansons, de tubes très connus, adaptés avec des paroles. Et c'est bon, et c'est politiquement intelligent, spirituel, drôle. Si vous voulez rigoler un bon coup, vous consoler de la stupidité ambiante, écoutez les Goguettes.
Daniel, tu nous suggères lequel, toi ?
Gare au Covid, oui.
Je me suis réveillé mal pris après une grosse gueule de bois. Lorsqu'à la télé ils ont dit, l'épidémie est en phase 3. Restez dans votre domicile, on ferme tout même les écoles. Au chômage les pédophiles, pour Polanski c'est pas de bol. Gare au Covid. Mon patron, cette vieille canaille, m'a donné sa bénédiction. Pour faire du télétravail, ça fait 5 ans qu'il me dit non. Ça lui ferait trop mal au cul que je me mette en arrêt. Moi, le petit trou de la sécu, je lui collerais bien à l'arrêt. Gare au Covid. J'ai cavalé au Super U pour aller faire des provisions. De dentifrice et de PQ, mais certainement pas de savon. Et face à l'ultime paquet d'un irritant sopalin, j'ai compris que je torcherais mon cul avec mes propres mains. Gare au Covid. Je courais les Champs-Élysées quand j'ai croisé une manif. Un peu dispersé, il est vrai, pour un CRS, c'est jouissif. Peu hygiénique, les gilets jaunes traînaient par terre, cherchaient leurs dents. Au moins les flics, quand ils vous cognent, c'est avec un masque et des gants. Gare au Covid. Voyant mon voisin les mains pleines de farfales de macaroni, j'ai ressenti un peu de peine pour les confinés d'Italie. L'Europe aime fermer ses frontières et à Bruxelles fait surprenant. Les députés tous se tendent l'air tant le prétexte est alléchant. Gare au Covid. J'ai fait l'erreur de m'informer sur Facebook et sur Instagram. Même sur Doctissimo j'aurais trouvé des infos bien plus fiables. Figurez-vous que le virus donnerait aussi la diarrhée. C'est à ce moment qu'à mon anus ne s'est jamais senti grippé. Gare au Covid. Au moins les femmes ont de la chance, pour une fois elles sont traitées. Sinon avec bienveillance, tout du moins avec équité. Car Contrairement au mal, le corona est exemplaire. Sur l'égalité salariale, ils payent à tous la même galère. Gare au Covid. En entrant dans une pharmacie, j'ai constaté que le rayon des préservatifs était aussi vide que le discours de Macron. Je vais donc m'abstenir, je crois, de sexe et de municipal. Entre la peste et le corona, on marche vers le Front National. Gare au Covid.
Les goguettes, à l'instant, on va en réécouter, hein. Gare au Covid. D'ailleurs, Covid, je suis un peu intrigué parce qu'au début, c'était plutôt masculin. On disait le Covid, et puis je crois que ça s'est féminisé. Là, c'est devenu la Covid.
Oui, moi, je dis toujours le Covid parce que je n'aime pas tellement me faire diriger par les modes journalistiques dans l'ensemble. Je me méfie encore, toi.
Allez, on plonge dans toute cette pile de monde diplomatique qu'on a en retard à la une du numéro de mars 2020. Un super article que je t'ai demandé d'étudier, Cédric, mais j'ai trouvé formidable. Un article signé Sonia Chat, qui est journaliste. D'où viennent les coronavirus ? Contre les pandémies, l'écologie. Où Sonia Chat explique, hein, ce dont on se doute bien autour de cette table, c'est que non, ce Covid, c'est pas la mère Gaïa, la mère nature ou Dieu qui nous l'a envoyé pour nous punir. Non, c'est bel et bien la destruction de notre biotope, des forêts primaires, enfin de ces zones sauvages qui faisaient tampon entre nous et les animaux, qui nous a refilé cette vérole. Effectivement, cette épidémie est bel et bien l'un des nombreux symptômes du cancer capitaliste qui nous ronge depuis un certain temps déjà. Cédric.
Alors, il y a un grand débat qui a agité les débuts du confinement. Alors, le grand débat du début, c'était de savoir quel animal était à l'origine de cette épidémie. Alors, d'abord, on a accusé les braves pangolins, puis des chauves-souris, des cochons, etc. Mais cette question, en fait, a oblitéré la question principale, à savoir que les épidémies se succédaient à un rythme de plus en plus soutenu et que notre vulnérabilité face à ces épidémies était croissante. Et bien sûr, derrière ce constat objectif d'un accroissement de notre vulnérabilité face aux pandémies, c'était de montrer que celle-ci était liée à la destruction accélérée des habitats, des biotopes, des animaux. Effectivement, sur l'apparition ou la réapparition d'un certain nombre de virus, la majorité sont d'origine animale. Plus des trois quarts sont d'origine animale et elles proviennent soit d'animaux d'élevage, des cochons, des canards, des poulets, mais les deux tiers proviennent en fait d'animaux sauvages. Alors, bien sûr, on peut crier haro sur le baudet ou plutôt haro sur le pangolin ou haro sur la chauve-souris en voyant dans ces animaux des nids à microbes montés sur 4, 2 ou avec des ailes, etc. Donc, le problème fondamental, bien sûr, ce n'est pas celui-là. Le problème fondamental est lié à la déforestation, l'urbanisation et l'industrialisation croissante qui voit se réduire les territoires des animaux. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, on s'est aperçu que c'est lors de la révolution néolithique que sont apparues des maladies comme la rougeole et la tuberculose qui sont en fait transmises par les vaches et la coqueluche par le cochon et les grippes par les canards. Donc, ces virus, effectivement, voilà, c'est extrêmement ancien. Sauf que on a connu une période d'accélération de ces virus qui sont liés à l'expansion de l'exploitation de la terre par les hommes, qui voient donc se réduire, de fait, les espaces dans lesquels les animaux peuvent évoluer en multipliant les contacts de plus en plus rapprochés et de plus en plus répétés entre l'homme et ses animaux. Alors, il y a plusieurs étapes, hein. L'article évoque notamment les périodes de colonisation où un certain nombre d'espaces ont été valorisés dans les pays tropicaux afin de développer des plantations, le café, le cacao, il parle du riz, il prend l'exemple du riz en Indochine, ou des espaces qui n'étaient pas cultivés jusque-là parce que les indigènes savaient que dans ces espaces-là, il ne fallait pas y aller. Les coloniaux, plus forts que tout le monde, ils sont allés et persuadés que grâce à leur avance technologique et médicale, ils pourraient se parer contre un certain nombre de dangers, eh bien, ont ramené plein de saloperies. Donc, l'article égrène un certain nombre d'exemples pour étayer sa thèse. Par exemple, le virus Ebola, une étude de 2017, a montré qu'elle était transmise par les chauves-souris du fait que les hommes, en fait, ingèrent de la salive de chauves-souris. Alors, on va dire qu'on ne va pas faire des bécots à des chauves-souris, sauf si vous avez des mœurs un peu particulières. Mais, en fait, les chauves-souris mangent des fruits, en fait, s'accrochent aux fruits pour en manger des petits morceaux et ça ne se voit pas. Et quand les hommes les cueillent, eh bien, ils vont ingérer une partie de la salive de chauve-souris, et ça qui provoque les maladies. Ou bien quand les hommes vont chasser les chauves-souris de plantation qu'ils ont mis, parce que forcément ils viennent manger, eh bien, les chauves-souris vont baver en fait sur les gens, ou vont baver sur les plantes, et voilà, par contact indirect. Donc, dans ces pratiques de déboisement, les flaques d'eau stagnantes se multiplient. Hein, des experts en écologie, pas Yannick Jadot, hein, mais des experts en écologie ont montré que dans les régions déboisées, c'était un paradis pour la multiplication de flaques d'eau stagnantes, qui était un lieu privilégié de reproduction des moustiques porteurs du paludisme, hein, par exemple. Donc là, les études ont très clairement montré que dans les zones boisées, au contraire, l'eau s'infiltrait beaucoup mieux. Ensuite, d'autres exemples, hein, sous d'autres contrées non exotiques. Dans le nord-est des États-Unis, une maladie que maintenant tout le monde connaît, hein, c'est la maladie de Lyme. Alors, cette maladie de Lyme, hein, particulièrement...
Transmise par les tiques.
Le premier cas est apparu en 1975, c'est pas une maladie extrêmement ancienne. Alors, là aussi, des études ont été faites par des chercheurs américains, et montrant que c'était en fait à partir du moment où les hommes ont agrandi leurs espaces d'urbanisation, au détriment des forêts, ce qui a contribué à faire disparaître les populations d'opossums. Or, les opossums sont des prédateurs de tiques et en mangent des quantités astronomiques. Or, ces opossums aussi attaquent, ont tendance à aller vider vos greniers, etc. Ils aiment bien aussi, ils sont adaptés, hein, ils mangent aussi dans les garages, etc. Et donc, les gens se sont mis à chasser les opossums et les tiques se sont multipliées, y compris non pas seulement dans les forêts, mais ont gagné les jardins, etc. Et c'est là qu'est apparue cette maladie. Ça vient aussi du développement de l'élevage industriel, avec l'entassement des bêtes dans des espaces très contraints, qui fait que ça permet la propagation de maladies, alors notamment le H5N1, mais on pourrait multiplier hein, le nombre de maladies, notamment touchant le poulet, parce que les élevages de poulets sont particulièrement effectivement mortifères, hein, et on montrait que les poulets en batterie, par exemple, le nombre de cadavres de poulets, parce qu'en fait ils se piétinent les uns les autres, ne sont pas ramassés tous les jours, ce qui compose des nids à microbes qui poussent parfois à l'abattage de dizaines de milliers de poulets, hein, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Alors, loin de comprendre les avertissements hein, qui se sont multipliés ces dernières années, on voit que les pouvoirs publics actuels continuent les démarches qui visent à agrandir le cumène, hein, à agrandir le domaine de possession des hommes sur la planète. L'auteur cite, par exemple, les dernières mesures de l'administration Trump, qui vise à affranchir les industries extractives de normes écologiques qui permettent de conquérir de nouveaux territoires, notamment en Alaska, avec tout un tas de virus qui sont piégés dans le permafrost et qui risquent de se libérer avec le réchauffement climatique. Et donc, si vous mettez des gentils petits humains qui galopent dans ces régions où normalement il n'y a quand même pas grand monde, vous multipliez les risques de transmission de maladies anciennes. Alors, ce n'est pas seulement de la science-fiction. On a vu le cas de plusieurs troupeaux de rennes qui ont été victimes en Sibérie de maladies que l'on croyait totalement oubliées et qui en fait sont piégées dans le permafrost. Et donc là, on voit comment les questions à la fois climatiques, sanitaires et d'exploitation de la planète par les hommes conduisent à un risque démultiplié de pandémie. Alors, l'article n'en parle pas, mais il n'y a pas que le méchant Donald Trump. Il y a par exemple en France le projet de la Montagne d'Or en Guyane, qui est un projet de vaste exploitation des ressources minières de l'or en Guyane, alors qu'ils sont présentés souvent comme des choses permettant de lutter contre le trafic d'or, hein, parce qu'il y a un orpaillage sauvage. Et là, en disant, on va faire un orpaillage officiel, encadré, ce qui va éviter de balancer de l'arsenic dans les fleuves et donc de tuer les poissons, etc. Mais on s'aperçoit que les méthodes employées par l'orpaillage officiel ne varient guère de celles employées par les orpailleurs sauvages. Et là aussi, en plaçant des hommes dans des contrées où, potentiellement, vous avez le développement de maladies, vous multipliez le risque de pandémie. Donc, c'est pas très rassurant.
Philippe. D'autant plus que la Guyane est un département français frontalier du Brésil et que la Guyane et le Brésil, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est l'Amazonie. Exactement le même milieu. Et actuellement, le Brésil est un des pays où la gestion du Covid-19 est une des plus désastreuses qui soit, et la Guyane, notre département français voisin, qui doit être, je crois, le plus grand département français, est un endroit où l'actuelle pandémie se développe le plus.
Je reviens à ce qu'on disait sur le Brésil. Bah oui, cet imbécile de Bolsonaro a viré les médecins cubains du Brésil. Et effectivement, la maladie y fait des ravages. D'ailleurs, il faut bien rigoler de temps en temps. Il y a un truc qui m'a fait marrer pendant cette période de confinement. C'est le retour des barbudos les médecins cubains qui vont soigner des gens partout sur la planète. Alors on en a vu en Italie, on en a vu dans les Antilles, je crois, là, dans nos colonies qu'on a, excusez-moi, pas dans les colonies, dans nos territoires d'outre-mer, n'est-ce pas ? Ça m'a fait quand même rigoler, c'est comme au bon temps des années 70 et des guerres coloniales en Angola, je sais pas quoi, le retour des Barbudos, hein. Alors Cuba, c'est pas bien, hein, c'est des vilains staliniens, des cocotiers pas gentils, mais chez eux, non seulement ils gèrent le Covid, mais en plus, ils ont trouvé le moyen d'envoyer des toubibs à eux soigner les gens dans les pays capitalistes. Mais sinon, le communisme, c'est mal, hein, hein André, c'est pas bien.
Bien sûr, c'est abomifreux, c'est le totalitarisme, vous comprenez. Faut même pas prononcer le nom. Tu vois, je pense que c'est imprudent de ta part.
Alors cela dit, pour tempérer un peu mon enthousiasme tropical, il y a cet article dans le Canard enchaîné du mercredi 9 septembre 2020, Esclavagisme à la mode cubaine, où le Canard cite une enquête qui rappelle que les médecins cubains seraient un peu plus de 400 000 envoyés par Cuba depuis 1960 dans 164 pays, des médecins cubains payés des clopinettes, alors que ces missions, facturées aux pays hôtes, rapportent à Cuba près de 8 milliards de dollars, plus du double des transferts de la diaspora cubaine. Soumis à un étroit contrôle, les familles des médecins cubains restés à Cuba constituent le meilleur des moyens de pression. Les médecins n'ont qu'un peu d'argent de poche, on parle de 23 euros par jour, et une consigne, se taire. Se taire sur la vie qu'ils mènent et sur les conditions d'existence à Cuba. Ces conditions de vie des médecins cubains exilés ont poussé deux ONG à déposer une plainte devant la Cour pénale internationale pour, ouvrez les guillemets, « fait d'esclavagisme », un procédé jugé honteux par Cuba. Petite île au sujet de laquelle on rappelle quand même qu'elle a été soumise à un embargo américain très très dur à partir de 1962. Voilà pour cette parenthèse cubaine. Pour clore cette émission, ce rendez-vous pointilleux auquel tu nous as habitués, Philippe, avec ton regard sur la propagande médiatique, cette rubrique « Remarques sur les médias ».
Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort.
Ça concernait les médias du 7 avril. Au journal télévisé de 20h de France 2, le 13e sujet était intitulé « Aide de l'État à l'économie, qui paiera la facture ?» Alors on a la voix de la journaliste. Le coronavirus, quel sera le coût pour l'économie française et qui paiera le déficit ? Chantiers et usines à l'arrêt, restaurants fermés, un tiers de l'économie est en panne. Et derrière, on voit défiler à grande vitesse une chaîne de fabrication de billets. Puis, une photo et la voix de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. J'ai fait une comparaison avec la grande récession de 1929 parce que je ne vois pas dans le passé proche d'autres comparaisons en termes de choc économique. Voix de la journaliste. Selon de nombreux économistes, il y aura une récession. Mais pour soutenir l'économie, il y a le plan de soutien du gouvernement déjà réévalué à 50 milliards d'euros. Mais la facture pourrait être bien plus élevée. Interview d'Éric Woerth, présenté comme président LR de la Commission des Finances. Ça peut aller à 120, 130 milliards, peut-être dépasser même ces montants, pour tout vous dire.
Alors pour les plus jeunes auditeurs, on ricane, hein, parce que Éric Woerth, le roi des casseroles au cul, le mec qui devrait être en tôle, mais qui n'y est pas, enfin, qui n'y a pas plus été, que François Fillon, pourtant frappé de 2 ans de prison ferme. D'où nos ricanements, Philippe.
Voix de la journaliste. Car les dépenses explosent. Exemple, le chômage partiel pour les salariés qui ne peuvent pas travailler, déjà 11 milliards au lieu des 8,5 prévus. Ou encore le report des charges sociales et fiscales, 35 milliards. Qui va payer ? Pour l'instant, pas de hausse d'impôts pour les particuliers. Conséquence, la dette de la France, déjà de 2400 milliards, pourrait s'alourdir. Plus 150 milliards. Et on voit dans un cartouche défiler les chiffres comme sur l'écran d'une machine à sous. Alors, la Banque Centrale Européenne vient au secours des États pour racheter leurs dettes. Interview d'Emmanuel Jessua, présenté comme directeur des études de l'Institut Rexecode. Ce rachat massif est fait à la fois pour rassurer les épargnants et assurer aux États un financement correct, faible, de la dette, et bien Elle le fait par création monétaire. Elle crée de la monnaie pour racheter ses titres de dette. Voix de la journaliste. Mais pour la gauche, il y a d'autres pistes. Interview d'Éric Coquerel de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il faut aller prendre l'argent là où il est. Et là où il est, depuis maintenant des années, et pas seulement en France, c'est quand même dans l'explosion des revenus financiers. Donc, il faut à nouveau les taxer. Voix de la journaliste. Autre solution, selon certains économistes, pour financer la crise, un grand emprunt national auprès des Français. Or, ici, j'ai repris ce que disait le journal, mot pour mot, c'est le verbatim. Maintenant viennent mes commentaires. Remarque 1. On se dit, enfin, on se demandait quand le sujet allait être abordé. Après 3 semaines de confinement, le premier moment de sidération passé et certaines habitudes prises, le gouvernement se lance dans les premières annonces. Mais à la façon dont on présente une mauvaise nouvelle à une amie ou à un ami en procédant avec ménagement. Tu sais, ton père, il lui arrivait un accident. On laisse alors son interlocutrice, son interlocuteur, imaginer le pire pour, au bout du compte, lui apprendre le moins pire qu'il ou elle accueillera donc avec soulagement. En lui déclarant, par exemple, « Finalement, ton père, il n'est pas mort. Il restera juste tétraplégique. » Remarque 2. Les questions « Qui paiera la facture ?» et « Qui paiera le déficit ?» induisent leur réponse, car psychologiquement, elles instillent dans l'esprit de l'auditeur la réponse « le payeur ». Il y a des chances ou, pour s'exprimer plus justement, des risques, que ce soit toi. Remarque 3. Le défilement d'une chaîne de fabrication de billets et la succession rapide de chiffres procurent l'équivalent visuel de la canalisation qui fuit, de l'artère qui se vide de son sang, c'est-à-dire de ce qui est cause soit d'un dommage grave au bien, inondation de l'appartement des appartements voisins, soit d'un dommage grave et irréversible à la personne, mort par hémorragie. Et l'identification peut se faire parce que par métaphore, l'argent et aussi appelé le liquide. Liquide comme l'eau du robinet, liquide comme le sang. Remarque 4. Lorsque Bruno Le Maire se réfère à la crise de 1929, c'est-à-dire à un événement presque séculaire qui a jeté des millions de personnes au chômage aux États-Unis, en Allemagne, en France, et qui a indirectement amené la Seconde Guerre mondiale, il la met au-dessus des crises de 1987, de 1997 et de 2008. Autrement dit, il suggère, si je prends comme comparaison un événement aussi énorme, duquel ont découlé des conséquences aussi funestes, c'est que cet événement-ci, autrement dit la pandémie du Covid-19, est elle aussi un événement énorme qui aura des conséquences à son échelle. Vous pouvez donc numéroter vos abattis. Remarque 4 bis, un point de vocabulaire mais révélateur. Il est question de charges, entre guillemets, sociales et fiscales. Il n'y a pas de charges sociales, il n'y a que des cotisations sociales qui font partie de la rémunération globale, intégrale, indissociable du salaire des salariés. Cotisations qui servent à payer leurs retraites, leurs soins, leurs assurances sociales, leurs indemnités de chômage. Et il n'y a pas non plus de charges fiscales. L'impôt sert à pourvoir aux besoins de la nation. Selon la belle formule de Condorcet, l'impôt est un tribut que le peuple se paie à lui-même. Remarque 5. La journaliste utilise à 2 reprises la même expression, selon de nombreux économistes, selon certains économistes. Mais qui sont ces nombreux? Qui sont ces certains? Qui sont-ils? D'où parlent-ils? Qui les rémunère? À quels médias sont-ils liés? On peut se poser des questions au vu de l'exemple de la remarque suivante. Remarque suivante. Emmanuel Jessua est présenté comme directeur de l'Institut Rex et Code. Directeur, entre guillemets, étude, entre guillemets, institut, entre guillemets, cela vous donne un parfum d'académie savante, d'université, de Nobel et de tout ce qui s'ensuit. Or, il faut bien savoir que ce fameux institut avec un i minuscule est en réalité une officine patronale. En effet, comme l'écrit l'Humanité du 12 janvier 2012, Rexecode compte parmi ses 80 adhérents des grosses banques françaises, des fonds d'investissement français, les grands groupes du CAC 40, ainsi que tout ce que le patronat compte de fédérations ou de groupements, dont l'UIMM, Union des industries et des métiers de la métallurgie. Rexecode a donc une forte odeur d'idéologie patronale. Remarque 7. À l'avant-dernier point, la journaliste donne l'opinion de la gauche, entre guillemets, en l'occurrence représentée par Éric Coquerel de la France Insoumise. Comme si les déclarations qui précédaient émanaient d'un empiré neutre et objectif, adjectif qu'affectionne la droite, vierge de toute idéologie. Alors que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est issu des rangs de LR, c'est-à-dire du parti de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Alors qu'Éric Woerth est aussi membre de LR et qu'il a été plusieurs fois ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et qu'il est proche de la famille Bettencourt. Remarque 7 bis. On notera à ce propos que lorsque parlent Bruno Le Maire et Éric Woerth, ils parlent comme ministre et comme président de la Commission des Finances, sous-entendu de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils parlent depuis une position surplombante, celle du gouvernement, celle du Parlement, d'une position nationale censée transcender et ignorer les divisions idéologiques, alors qu'Éric Coquerel, lui, est présenté comme de gauche, et même seulement d'une portion de cette gauche, la France insoumise, issue d'un seul département, la Seine-Saint-Denis, de surcroît le plus pauvre de la France métropolitaine. Éric Coquerel, par rapport à Woerth et Le Maire, est donc rapetissé, confiné à représenter une opinion, une idéologie, mot codé de la droite pour désigner la gauche, et des intérêts catégoriels. Alors que, comme on le sait, Le Maire et Woerth, eux, ne s'occupent que des intérêts de tous les Français. Dernière remarque, à la fin, certains, entre guillemets, économistes, évoquent l'idée d'un grand emprunt national. Or, bien que tous les gouvernements aient recours à l'emprunt, il s'agit là d'un procédé de financement plutôt prisé par la droite, puisque, au lieu de prendre de l'argent aux citoyens par le biais de l'impôt, on leur en redonne par le versement des intérêts de cet emprunt. On se souvient ainsi des emprunts Pinet, Giscard, Barre, Balladur, et notamment du premier, exonéré de divers impôts, dont les droits de succession, et du deuxième, indexé sur l'or, qui, l'un et l'autre, ont coûté très cher aux classes moyennes et populaires françaises. Car si l'emprunt est souscrit par les plus aisés, il est payé par les plus pauvres, par l'augmentation de la TVA, de la taxe sur les produits pétroliers et tous impôts indirects, par la hausse des frais d'inscription à l'université, par la baisse des aides au logement, par le déremboursement des frais de sécurité sociale. L'emprunt est une grande opération de transfert d'argent des pauvres vers les riches.
Bah Philippe, tout ça est édifiant. Tu as mauvais esprit, tu es presque un propagateur de fake news. Qui payera l'addition? C'est d'ailleurs une question que pose le monde diplomatique et qu'on étudiera dans une prochaine émission. Merci à vous les amis, je pense que vous avez été suffisamment insolent comme ça avec les médias et les gens qui les possèdent. Vous pouvez réécouter cette émission Malpolie sur notre site polemix-et-la-voix-off.com et on se retrouve très vite sur cette même antenne pour continuer à éplucher cette pile de monde diplomatique qu'on n'a pas eu le temps de traiter. À bientôt les amis.
Radio G 101.5 FM.